Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Radio. Le commentaire de...
Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
Salut, Danny.
Bonjour.
Hey, je me demandais quand est-ce dans l'émission j'allais en parler, puis je me suis dit que j'allais t'attendre parce que j'avais envie de connaître ta réaction. Tu sais, on parle souvent de la haine sur les médias sociaux et des choses inappropriées qu'on reçoit. Eh bien, hier, j'ai reçu une photo qui m'a beaucoup dérangée, qui était très dérangeante. Et un monsieur qui m'a envoyé une photo de ses parties intimes couvertes de... couvertes de semences en dessous d'une bobette. Je sais pas si je décris bien, là. En français, c'était venu d'un short, il avait remis ses bobettes, puis il m'a envoyé une photo. C'est ça.
Hey, wow! C'est chic, ça. Ouais, c'est graphique, hein?
Puis là, c'est plate. C'est très, très graphique. En plus, il l'a mis sur ma page publique, donc il était pas gêné. Il me l'a même pas envoyé en privé. Et là, j'essaye depuis ce temps-là de trouver sa mère pour lui envoyer la photo de son fils. Mais évidemment, il y a un faux nom. Donc, c'est impossible. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Samar?
Ces gens-là, ils ont probablement pas de mère. Ils sont probablement apparus dans une feuille de chou comme un cabot du Patch Kids. Puis là, on voit
la cigogne. La cigogne les a échappés puis sont tombés sur la tête.
Ah, la cigogne l'a eu par le siège, puis c'est ça que ça a donné.
En tout cas, mais envoyez-moi pas ça, là. Ça m'émoustille pas là, de voir vos déjections intimes. Juste un petit rappel. Hein?
Bon. Il me semble que c'est ça, mais peut-être qu'il y a des gens qui aiment ça, qui sait, en tout cas, c'est pas nous, ça se passe pas chez nous. Beaucoup de choses se passent dans l'actualité, par contre, donc on va essayer de chasser cette image-là de nos têtes.
Oui, c'est ça, mais il fallait que je sorte ça de mon corps et de mon âme, il fallait que je le dise aussi, parce que souvent les gens me demandent des exemples des insanités que je reçois. Je trouvais que ça, c'était un très bon exemple des choses qu'on peut recevoir, quoique c'est, je pense que c'est pire parce qu'il y avait une bobette par-dessus, c'était encore plus dégueulasse. En tout cas,
c'est-tu une belle bobette propre, admettons, ou c'était une bobette d'un gars qui s'est lâché?
Non, c'était une bobette saillante. C'était une bobette saillante qui avait l'air de venir du Costco. Je dirais ça de même. C'est notre seul indice. On va parler... Faut changer de sujet parce que c'est un peu dégueulasse. On va parler de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, qui a répondu dans une lettre ouverte aux doléances des hôteliers parce que ça va mal à la shop dans nos hôtels. Ils sont vides et ils vont être vides encore longtemps.
Tout à fait. Ben, la ministre a fait un peu le tour de ses actions. Elle a dit qu'elle était présente, sensible, qu'elle écoutait, qu'elle voyait bien les choses, sorti des statistiques sur sur cette crise qui est mondiale, hein, disons-le. Mm-hmm. On avait besoin de tout ça pour le savoir avec une baisse de 65% du tourisme en Amérique, 78% en Asie. On nous dit qu'on a investi 753 millions en tourisme, qu'il allait avoir un remboursement de taxes jusqu'à 100 000 $ avec un pardon de 25%. Fait qu'on énumérait ça, on énumérait tout ça. Mais tu sais, plus on avance dans cette réflexion-là, plus je me dis qu'on est devant une certaine forme de fatalité. À qui la faute? T'sais, est-ce que c'est au gouvernement d'aller sauver toutes les entreprises rendues là? Parce que, tu sais, on parle de l'hôtellerie, de la restauration, des gyms, des services. Mm. Tu sais, on est dans une pandémie. Ça se passe partout dans le monde. Où s'arrête la responsabilité du gouvernement? Où un risque devient-il un risque pour un entrepreneur? Tu sais, puis je peux en parler, là. Moi, je suis directement touché par cette affaire-là. Puis je commence à pas nécessairement avoir une petite gêne, mais à me dire, puis donc, Christy, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire de plus? T'sais, est-ce que mon industrie va se remettre de ça? Puis je suis extrêmement inquiet comme citoyen puis comme entrepreneur en tant que tel, mais à un moment donné, il faut être honnête aussi puis se dire, Christy, est-ce que c'est de leur faute tant que ça? À quel point ils doivent nous soutenir? Puis,
mais c'est ça, est-ce que tu considères, Danny, qu'on pourrait dire que le gouvernement a fait sa part et que là, advienne que pourra, les plus forts survivront, les plus faibles périront? C'est tout ça que tu nous dis?
Moi, j'ai envie de vous dire un petit peu ça, puis aussi les aides qu'on donne aux hôteliers, puis tout ça, toutes les mises à pied ont été faites. Les gens qui restent dans l'industrie, là, c'est des cadres, c'est des gens qu'on veut garder, c'est les subventions salariales qui nous permettent d'avoir des employés qui sont encore en place. Mais tu sais, le trois quarts de la main-d'œuvre est débarqué, là. Donc, on n'injecte pas du capital dans des entreprises pour maintenir des emplois. On espère que cette chose-là puisse se résoudre assez rapidement.
Mais c'est parce qu'en même temps, t'injectes du capital pour maintenir des emplois, puis si t'es maintiens pas ces emplois-là, ben ces personnes-là seront sur l'assurance chômage. Tu sais, fait qu'à un moment donné, ce sont des fonds qui changent de main.
D'une poche à l'autre.
C'est ça.
Tu sais, en même temps, il y a aussi Shiva, the God of Debt, comme on dit chez les Imo. Beaucoup de mots en anglais. On salue tout le monde de l'office qui pourrait nous écouter.
Ouais.
Tu sais, le marché va s'occuper de faire fermer les gens qui ne devaient pas rester ouverts. Et si tout se règle, ben il y a un paquet d'autres entrepreneurs qui vont se ruer au portillon pour redémarrer ces entreprises-là. Il y a pas mal de requins aussi qui attendent de voir de belles infrastructures.
Hey, ces locaux vacants-là. Hey.
Ben oui.
Ça va être une bonne affaire. Il y a des gens qui perdent leur job, c'est une réalité, ça continue. Les employés de Keurig, l'usine de Saint-Hubert, il y a beaucoup de mises à pied.
Oui, il y a une cinquantaine d'emplois perdus. C'était une usine qui était à Saint-Hubert, de VKI Technologies. C'est l'usine qui faisait la fabrication de cafetières commerciales. On se targue même d'être la première entreprise au monde à avoir mis au point la distributrice de café unique. Vous savez, celle où on met une piastre.
Oh, j'ai assez ça. Je m'excuse.
Tu sais que c'est un bon modèle d'affaires, hein, cette machine-là.
Bien sûr.
Il y a beaucoup d'entreprises comme Vanout, puis des entreprises comme Starbucks qui font de la capsule. Puis ils se retrouvent en épicerie, ils font des magasins. La vraie business se passe dans ces machines-là, puis dans la marchandise qui sort de là. Donc là, on allègue qu'il y a une cinquantaine d'emplois qui vont être perdus.
C'est pas, ils s'en vont en Asie. Tu sais, c'est ça. Mais tu sais, c'est le truc qu'on craint tout le temps, de voir des usines préférer déplacer leur production en Asie parce que c'est plus compétitif. T'sais, à un moment donné, on n'est plus capable de compétitionner contre ces marchés-là, puis ça donne ce résultat-là. Au final, il y a des gens qui vont perdre leur job dans pas long.
Ben oui, c'est ça qui arrive. T'sais. Puis ce que je me demande tout le temps, moi, c'est est-ce que c'est des entreprises qui ont eu des subventions? Est-ce que c'est des entreprises qu'on a essayé d'attirer, d'installer avec des données publiques, puis après ça, une fois que le citron est squeezé, ben, je m'en vais en Chine, tu sais, je débarque. C'est pas une grosse usine, mais on parle de 70 personnes. C'est une tragédie, 50 emplois perdus. Quant à moi, il n'y aurait pas. Je trouve ça inélégant qu'ils s'en aillent en ce moment aussi, parce que si à un moment tu bois du café à la maison, c'est bien pendant une pandémie. Ouais, là,
inélégant, Dani, mais tu vas savoir comme moi que Money Talks et que si en ce moment on n'est plus capable de rentabiliser tout ça, eh bien, c'est des décisions financières qui sont prises, c'est pas des décisions humaines.
Ah, oui.
Malheureusement, ça s'appelle l'entreprise privée et le capitalisme. On est désolé. On s'excuse. OK, parlant de capitalisme, on va se parler de la classe ambitieuse. La classe ambitieuse, ce sont ces personnes qui ne se définissent plus comme avant par leur possession matérielle, mais bien par leur choix de ce qui se consomme. Et le vin nature, ça fait vraiment partie de ce mouvement-là parce que c'est hype de boire du vin nature. Quand tu bois du vin nature, ça veut dire plein de choses sur toi. Du moins, c'est c'est ce qu'on pense. Et là, il y a un vignoble. Moi, j'aime beaucoup le vignoble des Pervenches. J'ai déjà fait la file pour aller acheter de leur vin. Et là, il y a des milliers de bouteilles de ce vignoble-là parce qu'on t'a dit tantôt, on boit plus de café, mais on boit plus de vin aussi. Donc, ces bouteilles qui se sont vendues en quelques minutes.
Les Pervenches, ça,
c'est génial.
C'est un cendrillon, là. Puis, la citrouille ne reviendra jamais. On produit 20 000 bouteilles par année. Moi, j'ai commencé à acheter des Pervenches au resto parce que j'ai un resto pendant longtemps dans les cantons de l'Est. Puis, je mettais un rouge et un blanc des Pervenches à ma carte. Personne ne voulait en boire. Il fallait que je vende mon verre 5$ pour le faire sortir. C'était du vin que j'achetais, moi, pour faire des petits cadeaux. C'était très, très bon, tu sais. Le vin rouge, c'était pas encore au point.
C'était très, très bon,
oui.
Mais depuis quelques années, ils ont pogné une coche au-dessus, là.
Bien, je pense que le marché de la bière de microbrasserie a beaucoup aidé le vignoble québécois. Les gens qui sont des geeks de bière ont migré vers le cidre de qualité, ont migré vers les vins québécois, puis il y a de belles petites histoires de succès avec des épiceries de quartier un peu. On parle de, mettons, Sainte-Cécile ou le Butterbloom, où tu vas retrouver les produits forts du vignoble québécois. Tu vas pouvoir les acheter directement, un peu comme les cavistes. Tu sais, on parlait de ça, puis justement, j'en parle à l'édition cette semaine avec mon ami Aurélia Fignon de la maison Anopole. On peut pas être un caviste au Québec. On peut pas arriver puis dire, moi, je m'ouvre un magasin de vin.
Ben moi, j'ai hâte que ça soit ça. Je sais que ça arrivera peut-être pas, là, mais j'aimerais bien ça que ça soit comme en France.
On espère que ça se peut parce qu'un caviste, là, c'est un conseiller expert qui choisit des trucs, qui curate une collection de vins qu'il veut te revendre. Donc, on est capable de travailler un peu ce phénomène-là en épicerie, on est capable de dégager de belles marges. C'est une porte de sortie inattendue pour le vignoble québécois, puis les gens se les arrachent parce que, justement, des professionnels les mettent en marché, puis on est capable de les découvrir, d'en parler, puis de leur faire une belle place, chose que la SAQ n'a pas faite pendant très longtemps. Là, depuis quelques années, tout le monde se réveille, puis hop, c'est dans le fun, le vin québécois, tant mieux, on en profite.
Mais est-ce qu'on pourrait penser, justement, et puis peut-être que je rêve en couleur, là, qu'on ait des cavistes, mais justement, de produits juste québécois, d'ici?
Bien, ça se fait bien. Il y a la boîte à vin qui le fait déjà à Belœil. Puis la boîte à vin...
Mais pourquoi eux ont le droit?
Bien, eux ont le droit parce qu'ils ont un permis d'épicerie. Ils sont pas les seuls à pouvoir le faire. Tu sais, au marché Jean Talon, là, t'as
mais il faut vendre autre chose avec.
Oui, tu vends d'autres choses. Mais je pense que tu peux en vendre directement du vin. Écoute, je n'aventurerai pas dans les dédales bureaucratiques de je peux-tu ou je peux pas. Mais tu sais, quand tu as un permis d'épicerie, tu peux vendre du vin d'épicerie. Tu peux vendre la bouteille comme ça te tente. Par contre, quand tu es un restaurateur, tu peux pas juste vendre des bouteilles de vin de chez vous. Il faut que tu vendes des plats qui sont avec. Tu peux pas commencer à importer du vin puis à le vendre toi-même. Ça marche pas. Il y a une dérogation que pour le vin québécois. Mm. Puis après ça, les vins qu'on a en épicerie, les vins qui viennent d'ailleurs, bien, ils sont assemblés au Québec. Donc, c'est des cuves qu'on transfère, puis on va mettre en bouteille au Québec. C'est ça qui fait la différence.
Bon, alors, si ça vous tente d'essayer ça, les pervenches, moi, je vous le conseille vivement, mais il faudra peut-être vous lever de bonne heure. On se reparle demain, Dani.
À demain. Salut. Bye.